Joël Zask, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe, maître de conférences à l'Université de Provence, ex-Marseille, et vous êtes spécialiste de philosophie politique et du pragmatisme. Vous travaillez sur les questions, entre autres, mais vous travaillez sur les questions des formes démocratiques de la participation. Vous avez publié des ouvrages tels que « L'opinion publique et son double, art et démocratie, participer, essai sur les formes démocratiques de la participation, la démocratie au champ ». Et quand la place devient publique, donc votre réflexion se tient sur les formes et les lieux pratiques de la démocratie, de la pratique démocratique. Ça, c'est le cadre général dans lequel vous développez votre travail. Votre dernier livre s'intitule « La démocratie au champ ». Vous développez cette idée contre le préjugé, on pourrait dire cela comme ça, le sens selon lequel les démocraties seraient nées dans les villes. Vous proposez l'idée qu'elles viendraient de cette activité qui consiste à cultiver la terre. Là se trouveraient les racines de l'idéal démocratique. En quoi, donc ma première question est celle-ci, en quoi justement cette culture de la terre mène à une culture et des pratiques démocratiques ?
Oui, alors je pense que ça n'est pas l'unique pratique qui mène à une culture démocratique, mais cela dit, il se trouve que c'est la pratique la plus ancienne, certainement, et par ailleurs la plus partageable. Elle est tout à fait fondamentale parce que c'est quand même de cette pratique que dépend la survie de l'espèce, au plan nourricier ou alimentaire. Et par ailleurs, elle est à la portée de tout le monde. Ça, c'est quelque chose qui est souvent dit dans aussi bien les projets de création de jardins partagés que de jardins pédagogiques, que de jardins thérapeutiques. C'est qu'au jardin, chacun a une place et que tout le monde peut faire quelque chose, quel que soit l'état mental ou physique dans lequel il se trouve. Mmh. Et du coup, c'est un outil particulièrement, je dirais, démocratique, déjà au sens où c'est à la portée de tous. Bien sûr, ça ne veut pas dire que la pratique agricole est une pratique spontanée et qu'on l'aurait dans nos gènes et qu'on pourrait naturellement cultiver des fruits et des légumes. C'est pas du tout le cas. Il faut de la transmission, des savoirs, des entraînements, des observations. Mais cela dit, une fois que les conditions sont réunies, chacun peut s'y adonner très facilement. Et donc, voilà, il y a déjà cet aspect qui me semble important et qui explique aussi pourquoi aujourd'hui, finalement, la pratique du jardinage partagé est souvent associée d'une manière claire ou confuse, peu importe. En tout cas, est souvent associée à justement une revitalisation de mode de vie démocratique ou d'un associationnisme démocratique et choses de ce genre. Et même s'il n'est pas évident de mettre le doigt exactement sur ce qui est en jeu, le fait est que, confusément, les gens savent qu'il y a une dimension politique dans le fait de créer un jardin partagé et d'y aller. Voilà, donc là, c'est déjà une première chose. Alors ensuite, historiquement, il se trouve que les démocraties qui sont les nôtres, les démocraties modernes, sont nées, évidemment, dans des pays dont la dominante de population était rurale. Et je pense qu'on peut, même si, bien sûr, les démocraties, ensuite, ont pu se tourner contre les paysans, ce que Marx a très bien montré avec la Révolution démocratique française lors de la Révolution de 89. Le fait est que, disons que l'immense majorité des populations est rurale à l'époque de l'invention des démocraties libérales. Donc ça, c'est déjà quand même un point qui est important à noter. Il n'existe pas encore d'usine, certainement pas. Et donc, d'où viennent ces idéaux démocratiques? Alors, clairement, ils ne sont pas nés d'un seul coup. Ils sont nés très progressivement. Parfois, d'ailleurs, malgré les évolutions qui étaient souhaitées par les dirigeants, et même les dirigeants, je dirais, républicains, pour les distinguer des dirigeants en démocratie, et l'idée d'une démocratie agraire ou d'une démocratie fondée sur la figure du cultivateur indépendant ou du farmer indépendant, et ce qui va accompagner justement la naissance de la première démocratie moderne, la démocratie américaine, la démocratie des États-Unis d'Amérique. Et là, donc, on va tomber sur des textes qui sont extrêmement intéressants et un idéal, finalement, qui a eu beaucoup de mal à s'imposer, qui finalement s'est imposé très partiellement et qui finalement aussi a été balayé par un autre idéal beaucoup plus marchand et urbain, finalement. Mais l'idée, finalement, que le cultivateur, à partir du moment où il lui est confié un certain... une certaine étendue de terre, en l'occurrence c'est 4 acres de terre et un âne, hein, qui était considéré comme le RMI de l'époque, en quelque sorte, que chaque famille recevait au moment de son installation aux États-Unis. Donc à partir du moment où le cultivateur avait à gouverner en quelque sorte sa ferme, c'est-à-dire à y accomplir une tâche de A à Z, à surveiller son ouvrage, à interroger aussi les possibilités même de sa terre, à l'amender, mais en même temps à l'entretenir, à en prendre soin, à la défendre contre d'éventuels prédateurs ou envahisseurs, qu'il fallait qu'il gère, parce que déjà, Olivier de Serres, c'est un autre exemple d'agriculture, enfin de démocratie agraire beaucoup plus ancienne, parce que là, on est au XVe siècle avec le domaine qu'il crée du côté de Montélimar. Donc, ce qu'il appelait le ménage des champs, hein. Et le ménage des champs était justement toute une administration qui devait composer avec une multitude d'êtres incommensurables entre eux, qui avaient des besoins très différents, humains et non humains, avec des arbres, avec des plantes, avec des animaux, avec les membres de la famille, avec les aides agricoles, qui d'ailleurs, dont l'idéal d'Olivier de Serres était qu'ils deviennent indépendants à leur tour, etc., etc. Donc c'est le gouvernement de cette multitude, en accord avec cette multitude et de manière à préserver cette multitude, qui me semble être vraiment l'antichambre de la démocratie, en quelque sorte. Bon, à quoi on peut ajouter que, traditionnellement, les paysans ont constitué des régimes autogouvernés dans des campagnes de la société d'ancien régime partout en Europe qui étaient fort éloignées du pouvoir central, avec lequel ils avaient très peu de relations, et qu'ils ont créé des formes prédémocratiques dont se sont inspirés pas ensuite, sans doute, un certain nombre de révolutionnaires ou un certain nombre de partisans des libertés. Et on peut citer, par exemple, l'organisation politique des Ortillonnages d'Amiens, qui est une organisation médiévale. Vous aviez des systèmes de chambrées, des systèmes d'assemblées avec des rotations de magistrature, des élections libres, un commentaire de la nouvelle du jour, une intégration des femmes, d'ailleurs, dans ces assemblées, des obligations de présence, interdiction de boire, par exemple, dans les assemblées landaises. Et donc, avec des foyers, vous avez toutes sortes de chambrées, voilà, toutes sortes comme ça de lieux politiques, paysans, autogouvernés, qui sont un petit peu, je dirais, la base sociale et politique du socialisme de la première heure, en fait. Du socialisme non collectiviste, c'est-à-dire de la démocratie sociale, d'un régime de liberté fondé sur le respect des opinions et l'utilisation de la force commune pour la répartition d'une part des ressources et d'autre part l'entraide pour les plus faibles. Alors ce que je voudrais dire aussi, c'est chronologiquement, toutes ces formes prédémocratiques et les premières formes démocratiques, évidemment, accompagnent une société agraire, essentiellement. Donc l'idée que la démocratie serait née à l'usine est un peu un anachronisme, et dans la ville, d'une certaine façon, également, dans la mesure où, justement, ça n'est pas au contact des réalités urbaines, mais plutôt au contact de l'auto-entreprise, en quelque sorte, et de l'indépendance, en particulier du cultivateur, que les idéaux démocratiques vont trouver leur première formulation.
Alors, revenons à aujourd'hui, à une époque où les questions environnementales, écologiques, sociales et politiques sont posées. La question démocratique est liée à la question de cultiver la terre, d'après vous, respirerait ensemble ?
Encore une fois, on ne peut pas tout réduire à l'agriculture et au fait de cultiver la terre, mais il se trouve que c'est un exemple un peu paradigmatique, finalement, d'un mode de relation à l'environnement, et c'est justement ce mode de relation à l'environnement qu'on peut appeler écologique. C'est-à-dire, c'est un mode de relation à l'environnement qui suppose d'une part l'entretien des conditions futures de production de la nourriture, et donc qui suppose que toute intervention sur la Terre soit accompagnée de la conscience de la préservation des possibilités que la Terre a de donner des fruits pour les générations futures, et aussi accompagnée de la considération des conditions de rétablissement de la Terre. Donc le paysan traditionnel, il pense sans cesse à amender la terre, à la guérir, à l'écouter, à dialoguer avec elle, à identifier ses besoins, et donc à fonctionner à l'unisson, en quelque sorte, avec les besoins de la terre. Mmh. Et donc, il intervient, bien sûr. Il n'est pas un contemplatif romantique. Il ne pense pas que la nature fait bien les choses. Elle ne les fait pas bien, de toute façon. En tout cas, en ce qui concerne les besoins humains. Il faut quand même qu'il cultive sa nourriture, puisqu'il ne la trouve pas directement. Mais, en revanche, ça n'est pas parce qu'il intervient dans la nature, activement, qu'il la détruit. Mmh. Et donc, c'est cette relation-là, entre le fait de produire ces conditions d'existence, pour parler comme Marx, et le fait de préserver le substrat même de la production de ces conditions d'existence, c'est-à-dire la Terre, qui est la solution écologique par excellence. Mmh. C'est-à-dire ça, c'est la solution environnementale qu'on va trouver, bien sûr, chez un très grand nombre d'espèces, mais dont, on va dire, l'espèce humaine, d'une certaine façon, s'est départie, parce que à un moment donné surgit l'idéal finalement de remplacer la terre par la chimie, c'est-à-dire de substituer à l'humus un mélange qui jouerait, d'après les partisans de l'agriculture industrielle, et là on est dans les années 1800-1850, qui jouerait exactement le même rôle que la terre. Bon, alors, on n'en est pas sorti, mais il se trouve que cette substitution de la chimie à la terre ou à l'humus pour la croissance des plantes, va évidemment mener à des pratiques qui sont totalement destructrices des sols. Ça, on le sait aujourd'hui. À l'époque, on ne l'imaginait pas, mais c'était... Enfin, même si on l'imaginait... Quoique, quand je dis on ne l'imaginait pas, ce n'est pas vrai, parce que même au XVIIIe siècle, par exemple, là, on peut penser à Jefferson, son modèle, justement, idéal du cultivateur indépendant, qui serait la base sociale de la démocratie, d'après lui, et justement très fortement attaqué par un autre modèle latifundiste qui est celui donc de la grande plantation du sud dans laquelle on va faire pousser du coton et du tabac. Et là voilà, vous avez des phrases du genre le coton et le tabac sont des cultures qui sucent le sang de la terre, etc. Et donc on sait que des cultures intensives et que la monoculture épuisent les terres de toute façon, et donc à terme détruisent les substrats.
Dernière question, en ville comme dans les champs, est-ce que face au mode de vie contemporain qui a déstructuré les formes collectives, finalement la démocratie, que ce soit en campagne comme dans les villes, cherche ses lieux aujourd'hui? Est-ce qu'on pourrait dire ça?
Bah, de toute façon, des lieux, il en existe beaucoup, puisque cette agriculture partagée, traditionnelle... produit jusqu'à aujourd'hui 80% des ressources alimentaires mondiales, donc on ne peut pas dire qu'elle ait disparu. Ceci étant, il y a peut-être en France d'abord une marginalisation extrême du jardin partagé d'une manière générale, et par ailleurs une recréation de jardins partagés destinée finalement à la fois à savoir ce qu'on mange et se resocialiser. Et donc là, en l'occurrence, je pense qu'effectivement le jardin partagé peut jouer un rôle éducatif et de sociabilité qui est vraiment aujourd'hui un peu dans les attentes de beaucoup de gens.
Joël Zask, merci.